Exploration, gagner en XP dans le JV.
Vous savez, j'ai toujours adoré les mythes et autres légendes. Je pense que les récits des chevaliers de la table ronde ou encore celui du golem, cette créature faite d'argile visant à protéger le peuple juif de l'oppression, font partie de mes favoris. Mais personnellement, ma préférée est un peu plus récente, vers la fin du XVIe siècle, je dirais. Transcendant l'histoire et le monde, un récit d'épée et d'âme éternellement raconté. Bon, vous l'aurez compris à la musique, ça sent plus les années 90 que le 16e, cette affaire. En même temps, Soul Edge, le premier épisode de la saga qui nous intéresse cette semaine, la série Soul, est sorti en 1995 au Japon, avant de débarquer en Europe le 9 mai 1997, soit il y a 26 ans, à un jour près. Arrivé dans nos contrées sur la toute première PlayStation sous le nom de Soul Blade, dû à des problèmes de droits d'auteur, l'opus nous raconte l'histoire de Soul Edge, une épée offrant une puissance phénoménale à celui qui la possède. Cette lame a traversé les âges et s'est abreuvée des âmes et de la souffrance de ses innombrables victimes. Si beaucoup la voient comme l'arme ultime, cette épée est en fait maudite et se nourrit autant de l'âme de ses martyrs que de ses détenteurs et détentrices. Ainsi, dans ce jeu de combat, nous suivons divers personnages dans leur quête pour soit s'emparer de son pouvoir, soit pour la détruire. Alors oui, c'est un jeu de bagarre, donc je vous invite à réécouter ma chronique sur ce style d'œuvre vidéoludique disponible sur le SoundCloud de Radio Campus pour comprendre mieux l'intérêt que l'on peut avoir pour cette catégorie de jeu. Aussi, je vais essayer de gratter un peu plus loin aujourd'hui en présentant les particularités de la saga trouvables dans divers pionniers du genre. Bien, tout d'abord, Soul Edge et ses suites sont des titres en trois dimensions, c'est-à-dire où il est possible de se déplacer non pas que de gauche à droite et de haut en bas, mais également vers l'avant ou vers l'arrière. Le premier épisode est pour ainsi dire un des précurseurs de cette forme de jeu de pugilat dont les deux autres représentants majeurs sont les Virtua Fighter de Sega et la bien plus célèbre série des Tekken qui est cousine à celle des Soul puisqu'elles sont toutes deux développées par Namco. Pourtant, s'il y a bien une production de cette époque auquel vous pouvez encore jouer sans trop vous en mordre les doigts, c'est bien Soul Edge. Beaucoup plus fluide que ses deux compères, le titre offre des combats à l'arme blanche dynamique et plutôt facile à prendre en main. Et pour cause, cette rapidité et cette accessibilité, cela va être la marque de fabrique de la licence. En effet, si un jour on vous propose d'essayer ce jeu, vous pouvez y aller tête baissée, voire tellement baissée que vous pouvez utiliser cette dernière pour appuyer sur les touches de votre manette en la roulant frénétiquement dessus. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que vous seriez foutu de gagner. Vous n'auriez eu aucune idée de ce que vous avez réalisé, mais vous l'auriez fait. Alors, je sais que dit comme ça, on pourrait croire que le jeu ne demande aucune technique, mais c'est faux. On retrouve énormément de principes de base du genre, comme la possibilité d'attaquer, de se protéger ou d'attraper ses adversaires. Toujours avec cette règle simple, la garde bat les attaques, les prises battent la garde et les attaques battent les prises. Aussi, vu qu'on est en 3D, les divers coups sont classés sous trois types, horizontaux, verticaux et enfin des coups de pied qui sont les plus rapides mais qui n'ont presque pas de portée. Ainsi, pour maîtriser le jeu, il faut savoir utiliser les différentes attaques au bon moment pour faire des enchaînements et démolir l'adversaire. D'autant qu'avec les itérations, la formule a bien évolué. Si Soul Edge permettait de sauter stupidement haut ou encore de faire perdre son arme à notre opposant, ces mécaniques disparaîtront dans les opus suivants pour laisser de la place à la possibilité de courir dans 8 directions, de contrer les offensives à la dernière seconde, voire d'infliger des coups spéciaux qui en jettent visuellement. Vous l'aurez donc compris, ludiquement parlant, la série Soul, c'est du très bon. Pour ce qui est maintenant de la narration, si dans pas mal d'œuvres du même style c'est un peu ridicule, les premiers titres de la franchise sont tout de même bien écrits. Cependant, je dois quand même vous introduire un concept plutôt important dans le cadre d'un jeu de bagarre, et plus précisément, un jeu de bagarre de l'ère arcade. Soul Edge, comme une pléthore d'autres jeux, a d'abord débuté sur borne d'arcade avant d'arriver sur console. Dans cette version, le joueur ou la joueuse mettait ses pièces dans la machine pour participer à environ 8 duels pour voir l'histoire entre guillemets du titre. Bien évidemment, on ne pouvait avancer qu'en gagnant les affrontements. Ce système de mode arcade, qui est donc une sorte de mode histoire pour chaque guerrier, c'est quelque chose que l'on retrouve dans beaucoup de jeux de versus fighting. Cela permet à chaque combattant d'avoir son moment de gloire, et dans le cas de Soul Edge, on a par conséquent un récit par personnage jouable, qui sont ici au nombre de 9. Et comme je le disais plus tôt, ces combattants, ils ont tous leur raison de partir à la recherche de Soul Edge. Cependant, lorsqu'on décide de faire des suites à son jeu, il faut donc choisir une des narrations et l'instaurer en tant qu'histoire principale. Je vais vous donner un exemple plutôt simple pour vous aider à comprendre. Parmi les 9 combattants et combattantes du jeu, on retrouve Eiichiro Mitsurugi, un samouraï à la recherche de Soul Edge afin d'obtenir une arme plus puissante que les fusils à poudre qui sont en train d'apparaître au même moment au Japon. Mitsurugi va donc partir pour finalement atterrir à Valence en Espagne où l'attend le pirate Cervantes de León, détenteur de Soul Edge depuis une vingtaine d'années. Après un dur combat, le japonais remporte la victoire avant d'enfin affronter Soul Edge elle-même qui va prendre possession du corps de Cervantes. Malgré ce revirement de situation typique d'un jeu vidéo, Mitsurugi triomphe du démon et peut mettre la main sur l'épée maudite. Cependant, se rendant compte qu'il n'en a pas besoin, il la réduit en miettes. On retrouve plus tard notre héros qui est de retour sur sa terre natale en train de se mesurer à un soldat détenant un fusil. Son objectif, prouver que l'arme blanche est plus forte que l'arme à feu et que ce qui importe vraiment, c'est la maîtrise. On a donc ici déjà un point qui ne sera décidément jamais repris dans les autres titres de la série, Soul Edge détruit d'un coup de katana, mais en plus, la séquence qui suit offre deux dénouements. En effet, le jeu va nous mettre dans la peau de Mitsurugi, littéralement à la première personne, pour affronter au sabre un homme avec un fusil. Ainsi, deux fins distinctes s'ajoutent. Une première où le joueur ou la joueuse esquive les balles et réussit à battre son adversaire, et une seconde où, bang, tu es mort et tu n'as rien pu faire. Dès lors, vous l'aurez compris, le récit de Mitsurugi n'est pas l'histoire principale du jeu. Celle qui compte vraiment, c'est la vie de Siegfried Stauffen, un chevalier allemand qui a tué son père par accident et dont la tragédie ne s'arrête malheureusement pas là. En effet, ce dernier va se mentir à lui-même, au point de penser qu'un autre a assassiné son paternel. Il va alors partir à la recherche de Soul Edge, afin de devenir assez fort pour se venger de ce meurtrier qui n'existe pas. Ainsi, dans cette histoire, c'est Siegfried qui remplace Mitsurugi et qui affronte Cervantes, puis Soul Edge. Cependant, le jeune homme, à la santé mentale fragilisée, va se saisir de l'épée maudite et causer une terrible explosion d'énergie maléfique qui va corrompre l'esprit de milliers de personnes à travers le monde. Siegfried va alors disparaître pour laisser place à son alter ego assoiffé de sang, le chevalier d'azur, Nightmare. Ceci est la base de la série Soul, qui après ce premier épisode, va prendre le nom de Soul Calibur, ou comme le dirait l'annonceur à la voix trop stylée,
Soul Calibur.
En effet, si la licence voit le jour sous le qualificatif de la lame maudite, elle adoptera plus tard celle de l'épée sacrée, Soul Calibur, unique arme capable de détruire Soul Edge. A partir d'ici, l'histoire devient plus compliquée. Différents personnages vont s'ajouter au casting, et le parcours de Siegfried sera de plus en plus tragique. Aussi, Soul Calibur premier du nom va instaurer quelque chose d'un peu particulier, les combattants invités. Alors, si certains guerriers reviennent dans tous les opus, notamment Siegfried, Nightmare, Cervantes et Mitsurugi, d'autres n'apparaissent que dans quelques-uns, voire dans un seul d'entre eux, et parmi ces personnages, il y a les combattants invités. En effet, dans le premier Soul Calibur, en plus des combattants et des combattantes du premier épisode, vient s'ajouter un certain Yoshimitsu. Il s'agit d'un ninja qui utilise une prothèse mécanique à la place de son bras droit. Yoshimitsu est un sabreur directement issu de la série Tekken et est donc un combattant invité dans la licence Soul Calibur. Bon, son cas est particulier dans la mesure où il reviendra dans les suites, à la différence des personnages invités suivants. Alors, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive, mais il est important de noter que parfois ces invités viennent détruire la cohérence de l'œuvre, puisque dans Soul Calibur 4, on pouvait carrément jouer Yoda et Dark Vador de la saga Star Wars.
Faites attention à ne pas finir étouffé par vos ambitions.
Et il a bien raison. Dans le 6, c'était Geralt de Rive, de la franchise The Witcher, qui rejoignait le casting.
Geralt de Rive, sorceleur.
Foutu VF. Cela dit, celui que le public retient, c'est bien Link, le héros de The Legend of Zelda, dans Soul Calibur 2 sur Nintendo GameCube. Soul Calibur 2, pour énormément de monde, c'est tout simplement le meilleur jeu de la série, voire le meilleur jeu de combat de tous les temps. Et pour cause, tout comme Soul Edge, il possède une cinématique d'introduction absolument folle, quoique bien plus ancrée dans les années 2000.
Transcending history and the world, A tale of souls and swords, eternally retold.
Le jeu offrait un casting remarquable. On retrouvait certaines figures familières, comme Taki, la chasseuse de démons, Astaroth, le golem à la recherche des fragments de l'épée maudite pour devenir entier, ou encore Sophitia, la guerrière grecque, prête à tout pour détruire Soul Edge. De nouveaux visages faisaient aussi leur apparition, Talim, une combattante de la nature issue d'une tribu qui prit le vent, Cassandra, la sœur de Sophitia, qui est désormais suffisamment grande pour coller des salamandales à ses adversaires, mais surtout...
Raphaël.
Et oui, Raphaël, seul français du jeu qui se bat bien évidemment avec une rapière comme un bon mousquetaire. Il est la source d'innombrables blagues sur ma personne au sein de cette radio, mais il est aussi le sauveur de Siegfried, puisqu'il est celui qui l'aidera à le défaire de sa malédiction, bien que ce dernier soit la raison de ses malheurs. Bref, par son casting riche, ses histoires tragiques et parfois touchantes, Soul Calibur, c'est une franchise très particulière dans le paysage vidéoludique. Quand bien même elle est en perte de vitesse depuis quelques années, elle fait partie de ces univers que l'on voit mal disparaître. Le sixième épisode sonna un vent de renouveau puisqu'il s'agit d'un reboot de la licence et offre une narration plus claire à tous ces différents personnages. Je recommande d'ailleurs pour ma part de jouer à cet opus si vous souhaitez découvrir la saga, c'est un titre très complet qui permet d'apprécier cette formule au mieux. Il apporte énormément d'effets visuels impressionnants aux attaques et n'hésite pas à pousser encore plus la fantaisie, donnant un ton un peu plus léger à ces guerriers trop souvent tragiques. Pour reprendre les mots de l'essayiste et journaliste Kerry Brunskill à propos de Soul Edge, je dirais que Soul Edge et Soul Calibur veulent être et sont définitivement de grands jeux de baston, avec des parades spectaculaires, des mouvements fascinants et un choix de combattants riches qui n'attendent que d'être maîtrisés. Mais c'est aussi une aventure fantastique, un monde inventé, vu à travers les yeux des artistes martiaux et d'autres âmes courageuses qui y vivent, quelque chose qui vaut la peine d'être vécu encore et encore. Ou plus simplement, c'est le récit épique d'âme et d'épée éternellement raconté.